Quoi de neuf doc, le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Quoi de neuf doc.
Je suis là pour avoir un avis d'expert. Moi, je suis pas malade, quoi.
La vérité, c'est que j'ai la trouille.
Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire.
Si comme des millions de Français et moi, vous avez regardé la série En thérapie sur Arte, vous aurez reconnu l'extrait. Alors, pourquoi un tel engouement autour de cette série qui parle de problèmes de santé mentale? Est-ce que ce ne serait pas lié à cette période si particulière où nous aurions tous besoin de faire le point sur le canapé douillet du docteur Dayan? D'ailleurs, Santé publique France a transmis un communiqué de presse concernant la santé mentale au début de ce mois. Le bilan est plutôt alarmant. Les Français et les Françaises, enfants, ados, adultes, seraient malmenés par cette crise sanitaire que nous traversons. C'est vrai qu'entre confinement, déconfinement, semi-confinement, gestes barrières, inquiétudes liées au virus ou à l'entourage, pas facile d'être zen en ce moment. On fait le point avec notre invité. Quoi de neuf doc, le quatrième vendredi du mois sur Radio B.
Héloïse Young, vous êtes pédopsychiatre en région parisienne. Quel constat on peut faire aujourd'hui sur l'état de santé mentale des Français ?
Très vaste question, nécessitant, je pense, plus qu'un quart d'heure pour répondre. Donc moi, en tant que pédopsychiatre, je suis particulièrement sensibilisée à toute la dimension du coup des ados et des enfants. Qui était assez peu finalement touché, en tout cas qui semblait assez peu touché au moment du premier confinement et qui là, depuis la rentrée scolaire de septembre, vont nettement moins bien et c'est de manière croissante actuellement. Il y a, et ça on est de plus en plus sensibilisé parce que les médias en parlent quand même beaucoup, toute la question de la santé des étudiants qui eux, du fait des cours en distanciel, de l'isolement, de la précarité, vont quand même très mal. Ça, c'est une population qu'on sait qui peut être quand même déjà vulnérable sans période de Covid et donc qui, là, se retrouve extrêmement affectée par cet isolement, par ce manque de sociabilité et de socialisation, etc. Et par cette incertitude, en fait, constante. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les deux populations. Et après, et ça, moi, c'est quelque chose que je connais un peu moins bien, mais je le vois à travers les parents qu'on accompagne beaucoup, les adultes qui sont peut-être moins touchés de manière générale, surtout pour les populations qui sont actives, qui ont un travail, qui ont quand même une certaine stabilité, qui peuvent se projeter dans autre chose, mais sur des populations qui pouvaient déjà avoir des traits de vulnérabilité, avec une anxiété, avec une tendance à avoir pas trop le moral ou des conduites addictives de type consommation occasionnelle d'alcool ou de tabac. On peut voir là, du coup, apparaître quand même des décompensations de consommation addictive plus importante, de pathologies psychiatriques qui décompensent avec l'apparition quand même de troubles délirants chez des patients qui n'avaient jamais été suivis. Et donc ça, c'est quand même des choses qui nous inquiètent beaucoup.
Pour qu'on puisse bien comprendre, remettre des définitions en face de certains termes, on peut parler d'anxiété, d'angoisse, de déprime, de dépression, enfin, c'est plein de mots qu'on entend, mais on n'a pas forcément les définitions qui vont avec. Est-ce que vous pourriez nous redire concrètement ce que ça veut dire, l'anxiété, l'angoisse, la déprime, la dépression ?
Alors, en fait, ce qui est toujours compliqué, c'est que énormément de mots médicaux, comme toujours, sont utilisés dans la population générale et en fait ont un sens médical et ont un sens plus global, de la conversation quotidienne. Quoi. Quand nous on parle en psychiatrie d'être maniaque, ça a évidemment pas du tout le même sens que une personne qui dit je suis maniaque. Donc ça c'est l'exemple le plus caricatural, mais qui me paraît important de rappeler parce que en fait tous les symptômes psychiatriques sont apparentés aux émotions et aux comportements. Et donc, tout ça, c'est des choses qui font partie de notre vie quotidienne. Donc, comment est-ce qu'on peut se détacher d'un sens commun et du coup, médicaliser ce sens? Je pense que c'est important d'avoir les deux, mais de savoir quand même à quel moment on a besoin de consulter, à quel moment ça devient compliqué. Alors, angoisse, anxiété, angoisse, c'est le terme un peu plus commun, anxiété, c'est le terme plus médical. Globalement, ça veut dire la même chose. Et nous, quand on pose les questions en entretien, quand les personnes ne savent pas ce que ça veut dire anxiété, on va dire, est-ce que vous vous sentez angoissée aujourd'hui, par exemple. Déprime, dépression, déprime, c'est le sens commun, dépression, c'est le sens médical. La dépression, nous, ça a vraiment une définition qui est extrêmement précise, qui est l'apparition d'une tristesse ou d'une humeur donc on appelle dépressive, donc d'une humeur quand même plus triste depuis au moins 15 jours, tous les jours, même si c'est un tout petit peu dans la journée, avec du coup l'altération d'autres domaines de fonctionnement, donc avoir plus de perte de plaisir, avoir plus de perte d'envie, avoir l'impression qu'on a plus de mal à se mobiliser pour faire les choses, avoir des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, puis être en difficulté pour être dans les liens avec les autres, avoir du mal à se concentrer, avoir envie de manger des choses beaucoup plus sucrées ou grasses, ou plus du tout avoir envie de manger. Et donc nous, quand on évalue les patients en entretien, c'est tous ces domaines-là qu'on évalue. Et on ne dit pas, pour poser une dépression, on ne demande pas juste à la personne si elle est triste. Et donc du coup, nous, en tant que médecin, on n'emploie jamais le terme de déprime. Voilà, et c'est important, cette question-là, mais ça, ce serait un tout autre sujet, parce qu'en fait, du coup, ça banalise la question de la dépression. C'est-à-dire que le fait qu'on emploie de manière aussi indifférenciée déprime et dépression en population générale, ça fait qu'on a du mal à pouvoir reconnaître la dépression comme étant une maladie et donc quelque chose ayant besoin de soins spécifiques.
Quand on dit déprime, on a l'impression que c'est moins grave, ça va durer, c'est un petit coup de mou et puis ça va passer. Vous avez commencé à en parler, mais comment, à quel moment, parce que là, ce que vous dites, le manque de, enfin, les difficultés à dormir, le fait de ne pas se sentir super bien, de ne pas pouvoir se projeter, on les vit un petit peu tous en ce moment. Beaucoup de personnes sont aussi rabattues sur la nourriture, hein. On ne peut plus aller au restaurant, donc on cuisine chez soi. À quel moment est-ce qu'il faut qu'on se dise qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Comment on peut s'en rendre compte? Parce que c'est assez difficile finalement.
Je pense que c'est toujours la même chose, hein. On revient toujours, nous, à cette analyse fonctionnelle. C'est quand on commence à avoir quand même des difficultés à faire face à ce qu'on a besoin de faire dans la vie quotidienne tous les jours. Parce que tout ça, on le ressent beaucoup, cette sensation d'oppression, le fait d'avoir un avenir bouché, est-ce qu'on va pouvoir réussir à se projeter dans autre chose, etc. Mais quand même, pour la plupart d'entre nous, c'est des choses qui peuvent nous arriver à un moment dans la journée et globalement, on arrive à y faire face et à passer à autre chose. On se projette dans notre travail, on a des projets, on arrive à faire autre chose. Là où ça devient quand même inquiétant, c'est quand il y a un impact fonctionnel qui est trop fort, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à s'organiser, quand on a des enfants, on n'arrive plus à s'occuper de nos enfants, on n'arrive pas à voir le sens que ça peut avoir de travailler, après, il y a différents niveaux de dépression. Il y a des personnes qui, du jour au lendemain, arriveront plus du tout à rien faire, pour lesquelles il n'y aura plus de sens à la vie. Et évidemment, et ça c'est extrêmement important, même si ça ne concernera pas la majorité des personnes, il y a toute la question de l'apparition d'idées suicidaires, d'idées noires, d'avoir envie d'en finir avec la vie, et qui, ça, pour nous en tant que psychiatres, sont vraiment des signes d'urgence, de souffrance psychique. C'est-à-dire que dans des maladies somatiques douloureuses, par exemple, on pourrait coter la douleur. Nous, un signe de douleur psychique intense, c'est la présence des suicidaires. Et donc, ça, c'est vraiment une urgence. Et donc, typiquement, quand on a l'apparition d'idées noires, d'avoir une perte de sens de la vie, mais au sens où on serait peut-être mieux à ne plus être sur cette terre, à ne plus être là, qu'on devient un fardeau pour nos proches, là, c'est quand même un signe. C'est un signe extrêmement important qu'il faut consulter de manière rapide. Et l'apparition d'idées suicidaires est un signe qu'il faut consulter en urgence.
Et face à tous ces mots là que vous venez de décrire, ces symptômes, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les réponses en fait qu'on peut trouver?
Alors, il y a différents niveaux, parce que là, on a parlé de différents niveaux. Donc, quand on commence à sentir que des choses nous pèsent dans le quotidien et sans qu'on ait des symptômes, tous les symptômes de dépression, ce qui est important, c'est de savoir qu'on n'a pas besoin d'être malade pour avoir besoin d'aller parler à un psy. Il faut aussi faire la différence, et je pense que c'est très important de refaire la différence entre un psychologue et un psychiatre. Donc, les psychologues, c'est des gens qui ont fait une licence et un master de psychologie en faculté de psychologie. Voilà. Donc après, il y en a qui sont plus spécialisés dans certains domaines. Il y en a qui font qui sont psychothérapeutes avec des compétences supérieures, qui font par exemple des spécialités psychotraumatisme, qui font de l'EMDR, qui font de l'hypnothérapie. Ce qui est important de savoir, c'est que tous les psys ne se valent pas, c'est-à-dire que des gens sont psychothérapeutes, mais pas psychologues. Être psychothérapeute, ça veut dire qu'on est formé à un type de psychothérapie. Ça ne veut pas dire qu'on est psychologue forcément. Donc, il y a des gens qui se forment à une psychothérapie spécifique et donc qui vont du coup utiliser les outils de cette psychothérapie-là. Donc, c'est le cas de beaucoup d'hypnothérapeutes qui vont se former à l'hypnothérapie et à toutes les techniques autour de l'hypnothérapie, mais qui ne sont pas forcément psychologues. Et certains psychologues feront en plus une formation d'hypnothérapeute. Donc, ce qui est important quand on va voir quelqu'un, c'est de savoir qui on va voir, parce que du coup, ça aidera à savoir si ça correspond aussi à nos besoins. Il ne faut pas hésiter à poser la question professionnelle, parce que évidemment, il y a beaucoup de spécialistes et il y a plein de thérapies différentes. Donc, pour aussi ne pas être déçu ou se retrouver embarqué dans un type de thérapie qui ne nous convient pas ou dans lequel on a l'impression... voilà, qu'on est amené à faire des choses contre notre gré, il faut vraiment essayer, et on est libre de le faire, et ça, il faut vraiment pouvoir le faire, redéfinir le cadre de l'intervention de la personne qu'on sollicite. Et les psychiatres, que ce soit pédopsychiatres ou psychiatres d'adultes, sont des médecins, donc ils sont passés par le cursus de médecine, avec un internat de 4 ans et qui va devenir de 5 en psychiatrie ou en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, avec des spécificités pour certains et des formations en plus à des psychothérapeutes. Quand on perçoit par exemple du stress dans la vie quotidienne mais qui ne nous impacte pas trop, mais on sent quand même que si on pouvait enlever ce poids des épaules de temps en temps, ça ferait du bien. Typiquement, après évidemment, il faut en rediscuter, hein. Là, c'est des indications très globales, mais toutes les interventions de méditation, de sophrologie peuvent être complètement adaptées. Après, quand on voit qu'on est quand même pas bien, que ça nous impacte quand même un peu plus, qu'on sent quand même que tout est un peu plus difficile ou qu'il y a des préoccupations qui deviennent plus importantes dans certains domaines ou que, voilà, on a du mal à faire face au quotidien, mais sans que ça devienne complètement invalidant, prendre contact avec un psychologue, ça peut être intéressant, déjà pour faire un point. Donc, on peut aller voir un psychologue et le voir 3 fois, le voir 6 fois, le voir 10 fois. C'est vraiment un traitement qui est sur mesure parce qu'on est dans un traitement qui est adapté au patient. Et quand il y a une souffrance quand même vraiment plus importante avec quelque chose qui devient vraiment trop invalidant, dans ce cas-là, quand même, ce qui peut être bien, c'est d'être vu par un psychiatre. Et évidemment, quand il y a la présence d'idées noires ou d'idées suicidaires, de troubles du sommeil qui sont extrêmement envahissants, il faut dans tous les cas être vu par un médecin. Alors au début, ça peut être bien d'en parler avec son médecin généraliste, hein, qui peut orienté après vers un psychiatre, mais la présence d'idées noires ou d'idées suicidaires, c'est le recours aux urgences pour après, pour certaines personnes, avoir besoin avant même d'avoir un suivi, de devoir être hospitalisé pendant un moment, le temps d'avoir une évaluation un peu plus approfondie.
Là, on a parlé de la prise en charge plutôt orale, on va dire, c'est-à-dire qu'on va rencontrer le professionnel pour se confier à lui et nous aider à porter notre fardeau et à trouver des pistes avec lui. Mais il y a aussi les médicaments. Parfois, les patients que vous allez rencontrer vont peut-être passer directement via leur médecin généraliste qui va leur prescrire ce qu'on appelle des antidépresseurs ou des anxiolytiques. Ça fait un peu peur parfois ces termes. Est-ce que c'est l'autre étape ? Est-ce qu'il faut d'abord aller parler et après on passe aux médicaments ? Est-ce que c'est les deux en même temps ? Comment ça marche ?
Globalement, on essaie de favoriser toujours la psychothérapie en premier lieu et par moments dans des états vraiment où les patients vont vraiment moins bien, l'urgence fait qu'on a besoin de protéger le patient et que c'est dans ces moments-là qu'on prescrit les traitements. Ce qui est vrai, et je pense que c'est important de le dire aussi, c'est que il y a plus de traitements psychotropes qui sont prescrits par les médecins généralistes que par les psychiatres. Les données sont partout, hein. Finalement, on a une idée assez fausse quand on se dit si je vais voir un psychiatre, je vais forcément avoir des traitements. Mais bon, après, ça peut aussi être le cas. On n'a pas forcément, quand on est anxieux, on n'a pas forcément besoin d'anxiolytiques. Le problème, souvent, est plus complexe que c'est juste le médecin qui va prescrire. C'est aussi que souvent, quand les patients arrivent au moment de la demande, ils ont envie que le symptôme disparaisse tout de suite. Et donc, quand on a envie que le symptôme disparaisse tout de suite, évidemment, quand on fait une psychothérapie, ça ne va pas être le cas. Et donc, la psychothérapie, et c'est pour ça qu'on vous conseille de quand même commencer les prises de contact le plus tôt possible. Dès qu'on commence à sentir qu'il y a des choses qui vont moins bien, bah, pour prendre une analogie, c'est quand même plus simple d'éteindre un feu quand il n'y a que quelques étincelles que d'éteindre un feu quand on est au sein de l'incendie de forêt, quoi. Donc, la question des traitements est une question importante. C'est très cadré, la prescription des anxiolytiques. Je prends les anxiolytiques parce que c'est les traitements qui sont à risque de dépendance, hein. Sachant que là-dessus, c'est quand même important de le savoir, il y a une grande différence entre pédopsychiatre et psychiatre d'adulte. C'est que nous, en tant que pédopsychiatre, on évite vraiment de mettre des molécules à risque de dépendance comme les benzodiazépines ou apparentées chez les enfants et les adolescents. Donc ça, c'est des médicaments qui sont plus prescrits chez les adultes et qui sont dans des règles de prescription très strictes en fonction des classes, avec 4 semaines pour les hypnotiques et 12 semaines pour les anxiolytiques classiques type benzodiazépine. Et avec l'objectif, c'est de diminuer, et d'arrêter ces traitements au bout de ces durées-là qui sont définies, et quitte à devoir les recommencer un peu plus tard. Alors, les antidépresseurs, la question de la dépendance est moins problématique. Souvent, ce qui se passe, c'est que les patients sont... On confond la dépendance avec le fait qu'ils ne sont pas traités suffisamment bien et suffisamment longtemps, et donc la dépression n'est pas en rémission. Et donc, comme la dépression n'est pas en rémission et n'est pas guérie, quand on enlève l'antidépresseur trop rapidement, le patient fait une rechute. Donc ça, c'est hyper important parce qu'on confond la dépendance à l'arrêt du traitement. La dépendance, c'est une définition qui est très spécifique, hein. C'est une accoutumance, donc un besoin d'augmentation de la dose pour avoir le même effet, et un des syndromes de sevrage à l'arrêt. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans les antidépresseurs à proprement parler. Alors évidemment, pour certains, on peut avoir des syndromes de sevrage quand on les arrête trop vite, mais on n'a pas besoin, on n'a pas cet effet d'accoutumance qui est quand même un effet très important dans la définition de la dépendance. Les traitements, il ne faut pas en avoir peur. C'est juste que c'est important de savoir que le traitement en soi ne va pas régler tout le problème, et qu'en général, ça marche quand même beaucoup mieux accompagné d'une psychothérapie.
Et pourtant, aujourd'hui, il y a 20%, je suis tombée sur un sondage, hein, 20% des Français qui consultent ne le disent pas à leur entourage. Il y a toujours cet a priori sur le fait de consulter un psy, de voir quelqu'un, comme on dit. Et puis, il y a une deuxième barrière, c'est le coût de la consultation. Si on s'adresse à un psychologue, c'est toujours pas remboursé. Du coup, comment on peut faire les personnes qui peuvent être freinées par cette barrière financière?
Alors, ce qui est très important, c'est de savoir que les soins psychiatriques en France sont organisés d'une certaine manière. Et ça, la plupart des gens ne le savent pas. Les territoires sont organisés en secteurs. Donc, ça veut dire que pour un territoire de population donné, il y a des soins ambulatoires qui sont organisés, qui sont dans les centres médico-psychologiques. Ça, c'est le cas pour les enfants et les ados et pour les adultes. Donc, normalement, tout territoire est quand même drainé par un secteur. Et donc, on a le droit, quel que soit notre niveau de revenu, d'accéder à ces soins-là. Le problème aujourd'hui, c'est l'embolisation de ces secteurs avec des délais d'attente qui sont de plus en plus longs du fait que la population ne va pas bien. Moi, ce que je conseille quand même toujours aux patients, c'est de prendre contact avec le secteur et de faire une demande de prise en charge. Parce que souvent, on se dit, je ne prendrai pas le contact parce que c'est trop long. Et souvent, quand finalement, on laisse le temps couler, on se dit, si j'avais pris contact, là maintenant où je ne vais vraiment pas bien, j'aurais en fait été pris en charge par le CMP. La question des psychologues, il faut savoir, et ça, c'est les mutuelles ne le mettent pas beaucoup en avant, mais que beaucoup de mutuelles maintenant prennent en charge quand même un certain nombre de séances de psychologues. Et souvent, en fonction des mutuelles, mais ça peut être de 3 à 10 par an. Et après, on peut relativiser aussi l'investissement financier. C'est-à-dire que oui, alors des séances en psychothérapie, c'est en général aux alentours de entre 50 et 90 euros. Mais finalement, l'investissement financier, quand on se dit c'est sur 10 séances et si ça peut vraiment changer les choses, en fait, quand on voit ce qu'on peut dépenser dans d'autres choses, par moment, ça vaut le coup. Évidemment, il y a des personnes pour lesquelles c'est absolument pas possible d'envisager cette dépense. Et ça, c'est quelque chose que j'entends très bien. Et donc, il faut se renseigner sur les dispositifs. Il y a toujours des dispositifs associatifs qui existent, qui sont parallèles en fait au CMP. Donc, il y a les dispositifs comme les CMPP, les centres médico-psycho-pédagogiques qui sont pour les enfants et les adolescents. Et pour les adultes, il y a des dispositifs associatifs qui, là, dépendent vraiment des régions. Il faut vraiment pouvoir toquer à toutes les portes, savoir ce qui existe. Il y a des endroits qui sont aussi plus conventionnés.
Le monde de la santé mentale alerte sur l'état de santé des Français depuis un moment. Ça fait quand même plusieurs années. Il a pas fallu la crise du Covid pour qu'on entende les cris d'alerte des psychologues, des psychiatres, des professionnels de la santé mentale. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait changer, améliorer pour que ça aille mieux ?
C'est compliqué parce que malheureusement ce qui se passe en France se passe aussi à l'étranger, hein. La dépression, ça va être dans une dizaine d'années la pathologie, une des pathologies les plus fréquentes avec le plus d'impact dans le monde selon l'OMS, et pourtant c'est une pathologie, la plupart des personnes ne savent toujours pas ce que c'est, et pour une grande partie des gens c'est toujours pas une maladie. Donc quand on voit le nombre de personnes qui sont touchées par la dépression, qui est quand même la maladie la plus fréquente en psychiatrie, c'est compliqué. Moi je pense que la crise du Covid aura quand même permis de lever un petit peu le tabou sur le fait qu'on en parle, parce que de plus en plus de personnes quand même sont touchées par cette problématique, de plus en plus de personnes sans être atteintes d'une maladie psychiatrique sont atteintes de troubles psychiques avec des difficultés d'endormissement, des angoisses qui sont plus importantes. Donc je pense que l'avantage c'est que ça permet d'en parler, et ça c'est quand même bien. On voit qu'on a plus la parole, on est plus sollicité par les médias qu'on ne l'était avant, et donc ça c'est quand même important. Après je sais pas comment on peut faire pour changer les choses vraiment, parce que déjà rien que, enfin comme partout, hein, on est plein de professionnels différents, et rien que pour obtenir un consensus sur la manière de communiquer, nous entre professionnels du soin psychique, on ne sera pas forcément d'accord sur la manière de faire et les modalités à accomplir. Donc voilà, là c'est une question un peu sans réponse, hein, mais en tout cas je pense qu'au moins là on peut parler des choses.
Vous êtes pédopsychiatre, donc spécialiste des enfants et des adolescents. Quels conseils vous pourriez donner aux parents pour faire en sorte que tout se passe bien avec nos petites têtes qui sont pas faciles à disséquer tout le temps?
Alors déjà, il ne faut pas être parent et soignant, donc il ne faut pas essayer d'interpréter ce qui se passe en permanence. Ce qui est important, c'est de mettre des mots sur ce qui se passe. C'est-à-dire que je pense que plus que d'essayer de comprendre vraiment ce qui se passe dans la tête de nos enfants, il faut avoir conscience qu'ils comprennent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce qui se passe et qu'ils sont exposés à beaucoup de discontinuités actuellement. Et donc, ils ne sont pas du tout préservés dans le contexte actuel. Donc, il faut pouvoir leur expliquer ce qui se passe. Il y a beaucoup de professionnels dès le premier confinement qui ont mis à disposition du grand public beaucoup de supports pour pouvoir expliquer ce qui se passe facilement. Je pense qu'on connaît tous nos enfants et il faut pouvoir leur expliquer facilement, mais c'est pas parce que nous on en a peur qu'il faut pas leur en parler, parce qu'en fait dans ces moments-là ce qu'ils perçoivent c'est notre anxiété, et sauf que eux n'ont pas de mots et de moyens de verbaliser ce qui se passe, et des mots même sur les incohérences qu'on peut percevoir en disant bah oui tu vois il y a ça qui a été dit hier, aujourd'hui il y a des choses qui ont changé. Là, aujourd'hui, ton école a fermé, c'est pour cette raison. Percevoir, être très attentif quand même à des choses, aux petits signes que les enfants nous lancent, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des gros signes pour attendre de consulter chez les enfants. Ils n'ont pas les moyens de nous interpeller de la même manière que les adultes. Un enfant qui présente des troubles du sommeil, un enfant qui va pouvoir avoir des mouvements de régression très importants, c'est pas des choses qui vont être forcément pathologiques, mais il faut quand même y être attentif et pas attendre que ça devienne catastrophique et ingérable à la maison ou à l'école pour s'inquiéter.
Je vous remercie Héloïse Young pour toutes ces informations, et puis on invitera les auditeurs à vraiment aller se renseigner et se rapprocher des CMP en priorité. Hein.
Je vous en prie, bonne journée.
Rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.
Quoi de neuf, Doc ? Le quatrième vendredi du mois sur Radio B.